9h42 à Paris. Dans quelques minutes, le reportage Afrique. On sera à la frontière entre le Rwanda et la RDC. On parlera des difficultés économiques dans une ville à la frontière. À la frontière entre le Rwanda et la RDC. On passe d'abord au sport avec Victor Missistrano. Et d'abord le basket, Victor, à la fin du rêve olympique de la Côte d'Ivoire qui n'ira pas aux Jeux de Paris.
Les éléphants quittent le tournoi de qualification de Porto Rico sans ticket, mais avec beaucoup de regrets. Après s'être inclinés de peu contre la Lituanie, les Ivoiriens ont cédé hier soir contre le Mexique 92-81. Ils menaient pourtant à l'entame du quatrième et dernier quart-temps. L'ailier Lionel Quadio regrette les petites erreurs qui ont coûté cher à son équipe qui n'a pas démérité.
La Lituanie, le Mexique sont de très bonnes équipes, mais il nous a manqué quelques détails, quelques lancers francs, quelques trucs en gros. On a perdu les deux matchs sur la même chose. Les leçons que nous pouvons tirer de ce tournoi, c'est que d'abord, il faut rester toujours ensemble, peu importe ce qui arrive. Il faut qu'on travaille plus le collectif, les finitions, les lancers francs, les tirs. Il faut qu'on retravaille tout en fait parce qu'on a la Pro Basket 2025. Et je pense que c'est ce qu'on va faire, on va bosser dur dans nos différents clubs et revenir à la préparation pour travailler dur ensemble pour aller chercher le trophée.
Propos recueillis par Molamine Sissavané.
De son côté, le Cameroun continue d'y croire.
Oui, et même plus que jamais, les Camerounais sont à deux matchs d'un exploit retentissant. Ils se sont qualifiés hier pour la demi-finale de leur tournoi grâce à une victoire 77-74 contre le Brésil. Rendez-vous demain 16h, temps universel, face à la Lettonie qui jouera à domicile. Le Cameroun est la dernière équipe africaine qui peut espérer rejoindre le Soudan du Sud au JO dans le tableau masculin, puisque c'est terminé pour l'Égypte et l'Angola, doublement battus dans leur tournoi de qualification respectif.
En football, les sélections se tournent vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui débutera fin 2025 au Maroc. Le tirage au sort des groupes de qualification a eu lieu hier à Johannesburg, en Afrique du Sud.
Un tirage clément pour la Côte d'Ivoire, tenante du titre, qui affrontera la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. Bon tirage aussi pour le Cameroun qui sera opposé à la Namibie, au Kenya et au Zimbabwe. Le Maroc, futur pays hôte, jouera contre le Gabon, la Centrafrique et le Lesotho. Autre favori, le Sénégal tombe dans le groupe du Burkina Faso, du Malawi et du Burundi. De son côté, la RDC hérite de la Guinée, de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Le tableau complet est à retrouver sur RFI.fr. Cette CAN, Moussa Niakate espère sans doute la disputer avec les Lions de la Teranga. L'Olympique lyonnais a officialisé hier l'arrivée du défenseur sénégalais en provenance de Nottingham Forest pour la somme de 31 millions d'euros.
Et on parle aussi d'athlétisme dans ce journal des sports. Dernière ligne droite, Victor, avant les Jeux Olympiques.
Hier s'est tenu le meeting de Sotteville-lès-Rouen dans le nord-ouest de la France. Le champion du monde Hugues Fabrice Zango a remporté le concours du triple saut avec une marque à 17,38 m. Le Burkinabé devra aller beaucoup plus loin s'il veut espérer remporter l'or à Paris. Sur le 200 mètres, l'Ivoirien Chekna Traoré visera la médaille. Il s'est imposé en 20 secondes 41, loin de son meilleur temps de la saison, 19,93 au championnat universitaire américain pour celui qui vit aux États-Unis depuis l'âge de 5 ans. Mais ce chrono est logique selon lui.
C'était ma première course depuis un mois environ. Donc il y a un peu de rouille, mais on fait avec. L'objectif, c'était de se lancer vers les Jeux Olympiques, de m'habituer au climat et à l'atmosphère. Après, je ne suis pas vraiment satisfait de mon temps. Je suis capable de faire beaucoup mieux. Mais allez, pour la première course depuis un mois, on prend.
Chekna Traoré au micro de Baptiste Leduc. En cyclisme, Binyam Girmay n'est pas passé loin d'une deuxième victoire sur le Tour de France après celle de lundi. L'Érythréen a terminé hier deuxième derrière le Néerlandais Dylan Groenewegen. Il garde le maillot vert de meilleur sprinter. Enfin, en tennis, ça ne vous a sans doute pas échappé. Marion Onsjaber poursuit sa route à Wimbledon. La Tunisienne, double finaliste en titre, s'est qualifiée pour le troisième tour. Elle a éliminé l'Américaine Robin Montgomery. Le score, 6-1, 7-5.
Et ouais, ce qui se passe en tennis ne m'échappe jamais. Onsjaber, d'ailleurs, qui affrontera Elina Svitolina. Merci, Victor Missistrano, pour le journal des sports.
RFI à Kigali, 91.9 FM.
On entame aujourd'hui une série de reportages au Rwanda avant les élections présidentielles et législatives du 15 juillet. Paul Kagame, au pouvoir depuis 24 ans, est candidat à sa réélection. le Rwanda, dont les relations sont au plus mal avec la RDC voisine. Les tensions diplomatiques se font sentir, notamment à Rubavu, ville rwandaise frontalière de Goma. Depuis 2 ans, la frontière entre les deux villes, l'une des plus empruntées du continent, ferme dès le milieu de l'après-midi et les habitants appellent à un retour à la normale. Reportage sur place de Lucie Mouillot.
Au cœur de la rue marchande de Rubavu, Gorette Wineza organise les grands sacs de marchandises installés à l'entrée de sa boutique.
Ici, je vends des graines de maïs, du sorgho, du soja et des haricots.
En cette fin de matinée, les clients congolais se dépêchent pour déjà retourner à la petite barrière post-frontalière entre Rubavu et Goma. Avant 2020, 50 000 passages journaliers y étaient enregistrés. Mais depuis 2 ans et la fermeture à 15 heures de la frontière en raison des tensions entre le Rwanda et la RDC, la rue marchande à quelques centaines de mètres de là tourne au ralenti.
On avait des clients même au dépôt, il y avait beaucoup de mouvements. Au marché, en combinant les vendeurs, on pouvait vendre à nous tous une demi-tonne de sacs par jour. Maintenant, même vendre 100 kilos, c'est difficile.
Un commerce transfrontalier indispensable pour l'économie de la ville. 3 étals plus loin, Moussa Babonamposé ouvre les portes de son entrepôt. Président d'une coopérative, l'homme d'affaires doit souvent aider les commerçants bloqués la nuit de l'autre côté de la frontière. Les limites d'horaire compliquent les échanges et ont réduit ses revenus de près de 30%.
Nous voulons la paix entre les deux pays, le Rwanda et le Congo. Que Dieu fasse que nos dirigeants s'entendent et que les commerçants profitent du retour au calme et que cela redevienne comme avant.
Une volonté pour les habitants, le retour de la fermeture à 18h de la frontière. Dans les écoles de la ville, l'impact économique se fait aussi ressentir. Jocelyne Mourekatete, directrice d'un établissement primaire de Rubavu.
La grande majorité des parents travaillent au Congo. Donc ça a été un peu difficile et financièrement. Avant, il y avait des parents qui arrivaient même à payer tout un trimestre ou bien toute une année. Mais aujourd'hui, ça demande de les forcer, appeler toujours. Vraiment, on souhaitait beaucoup que la situation revienne comme avant. Ça peut vraiment beaucoup nous aider.
La fermeture quotidienne anticipée de la frontière a chamboulé depuis 2 ans la fréquentation de l'école. Élèves et professeurs congolais ont pour beaucoup quitté l'établissement. D'autres ont dû déménager au Rwanda pour continuer à suivre leur classe. Lucie Mouillot, de retour de Rubavu, RFI.
Le reportage Africa à retrouver et à réécouter sur notre site RFI.fr et sur l'application Pure Radio.
RFI à Freetown, 89.9 FM. Libreville, 104 FM.
7h49 en temps universel. Au Gabon, la situation économique du pays est alarmante selon un récent rapport du FMI, le Fonds monétaire international. Le rapport a étudié l'évolution des performances économiques du Gabon des années 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il en ressort notamment, c'est que la pauvreté et le chômage sont en forte hausse. À Libreville, Yves-Laurent Goma.
Selon le rapport, le Gabon reste un pays à revenus intermédiaires, mais ses populations s'enfoncent dans la pauvreté, résume Gomez Agou, représentant du FMI.
On s'est rendu compte qu'il y a eu un recul du niveau de revenus. Pour vous donner un exemple, au Gabon, si un habitant en moyenne gagnait 100 000 francs CFA en 1990, aujourd'hui, ce même habitant gagne à peine 80 000 francs CFA. Ce recul du revenu s'est accompagné de 2 éléments importants au Gabon. C'était l'accroissement du chômage et l'accroissement de la pauvreté. Le chômage aujourd'hui est autour de 35 à 40% au sein de la population en âge de travailler. Et la pauvreté, c'est un Gabonais sur 3 qui est pauvre.
Autre indicateur négatif, le taux d'endettement qui dépasse le seuil de 70% du PIB, fixé par la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC.
Nous avons donc regardé la situation de la dette du Gabon qui aujourd'hui se situe en 2023 à 70,5% du PIB. Donc c'est un taux d'endettement très important. Parce que si le rythme d'endettement avant le 30 août 2023 se poursuit, dans les années à venir, la dette du Gabon pourrait atteindre dans 4 ans ou 5 ans 100% du PIB.
Pour corriger cette situation, le FMI formule plusieurs recommandations.
Le Gabon doit bien gérer ce dont il dispose. Ce dont le Gabon dispose, ce sont des ressources pétrolières et minières qui sont importantes, sur lesquelles malheureusement, pendant des décennies, il n'y a pas eu de transparence. C'est l'heure de rétablir toute la transparence sur la gestion de ces ressources-là. Il faut publier, par exemple, les contrats de pétrole et les contrats miniers. Il faut s'assurer qu'il y a un audit du secteur, collecter l'impôt et les droits de douane, et réduire le rythme de dépenses de l'État.
Lors d'une cérémonie conjointe avec le FMI, le ministre de l'Économie, Maïs Moïssi, a fourni quelques explications.
Nous continuons notre stratégie avec la volonté de faire en sorte que notre pays maîtrise ses déficits, maîtrise l'inflation et maîtrise son endettement. Ce que le FMI demande, c'est d'être déjà plus transparent sur les recettes pétrolières et minières. C'est la raison pour laquelle il y a toute une réflexion sur le volet contractuel, voir comment nous pouvons rendre public, y compris les contrats liés à ce domaine.
Le FMI félicite le gouvernement de transition pour avoir volontairement mis à sa disposition, en toute transparence, la documentation qui a permis d'élaborer ce rapport. Il souhaite que Libreville s'active à appliquer ses recommandations pour améliorer durablement les performances économiques du pays. Yves Laurent Goma, Libreville, RFI.
La chronique Afrique Économie à retrouver aussi sur notre site RFI.fr. (Musique) 9h53 à Paris, 8h53 à Cotonou. On se quitte avec le choix musical de RFI.
Le crocodile, j'ai les crochets, les écailles, oh. Là-bas, il m'appelle le guépard, ça part vite, je fais que de remplir le PayPal. Je me trouve un peu trop fêtard, en ce moment, j'ai toujours l'esprit en pétard. J'ai toujours l'esprit en pacaille, avec mes démons, en ce moment, je fais la bataille.
Théodore, D-O-R-T à la fin. C'est le nom du rappeur que vous nous présentez aujourd'hui. Sophie Torlotan, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Théodore a 21 ans et vient de sortir un premier album intitulé Imad. Pour autant, ce n'est pas un inconnu.
Et effectivement, cela fait 12 ans déjà que le jeune homme nourrit des envies artistiques et a créé une chaîne YouTube où il a publié des vidéos humoristiques, parodiques sur le rap. Des vidéos qu'il a effacées au début de cette année pour laisser place à la musique tout court. Il raconte d'ailleurs la genèse de sa vocation dans un film intitulé « Maintenant, vous savez », mis en ligne le 17 mars dernier, donc sur sa chaîne, suivi par près de 3 millions d'abonnés.
On a commencé très vite à filmer nos parties de jeux vidéo, carrément même avant que ça se publie sur YouTube. Et mon père m'a inscrit au piano. Et puis il m'a offert un clavier. Et donc, j'ai commencé à faire de la musique. Il avait déjà cette volonté de faire de la musique et de raconter des histoires en musique. Et j'ai deux albums que j'ai fait respectivement à 7 et 9 ans, je crois.
Alors, dans cette vidéo, hein, Théodore parle de tout ce qui l'entoure, son frère notamment, avec qui il a commencé à faire ses vidéos, tous les musiciens qui l'ont accompagné. Et puis, il parle de sa famille au Bénin, notamment de sa grand-mère, une figure importante de sa galaxie familiale, qui apparaît d'ailleurs sur un des titres de cet album, le titre « Heureusement ».
Imad, mon grand, comment vas-tu ? Je viens prendre de tes nouvelles. J'ai pu savoir ouvrir une nouvelle page dans la réalisation de tes rêves. Alors, où en es-tu avec cet album?
J'ai négocié le meilleur deal. Je veux faire le meilleur disque. J'ai rencontré la meilleure fille. Je voulais dire les meilleures disquettes. J'essaie de moins être distrait. J'essaye de moins être distant. Je vois plus trop la famille, mais j'essaie de les appeler souvent.
Sophie, c'est justement un voyage à Cotonou qui a orienté la tonalité musicale de ce disque.
Oui, un retour aux sources en 2022 qui d'ailleurs donne le titre de ce premier album de 15 titres, Imad. Puisque Imad, c'est le deuxième prénom de ce jeune homme métis et ça signifie force, pilier, lumière. Alors, en revenant de Cotonou, Théodore a eu envie de sonorités venues d'Afrique. C'est ce qu'il raconte toujours dans la vidéo. Maintenant, vous savez.
En rentrant en France, j'ai quand même l'envie de retranscrire ce que j'ai vécu, ce qui était très intense pendant ce voyage au Bénin. Et je découvre Asake. Et Asake, il fait une certaine musique, un dérivé de l'afrobeat, l'amapiano. En fait, l'amapiano, c'est un style qui a été créé en Afrique du Sud. C'est ultra créatif. J'ai l'impression qu'il y a un monde à explorer. Et pendant un an, j'écoute que ça.
J'hallucine bébé, j'hallucine bébé. Sois les signes bébé, sois les signes bébé.
Voilà, Lama Piano et l'Afrobeat irriguent ainsi les 15 titres de ce premier album généreux de Théodore.
Imad, le premier album de Théodore. Il sera en concert le 13 juillet à Toulouse, dans le sud de la France, avant une grande date en novembre, salle Playel, et une tournée en 2025 déjà dans les Zéniths. Merci Sophie Torlotin pour le choix musical. On se quitte avec le titre Irbin Night.
On l'a fait, on l'a fait. Je veux voir les deux doigts en V. Y'a tout le monde qui dit on va le faire, mais quand on dit on va le faire, nous on va le faire en vrai. Faut qu'on se capte avec mes anges. Je suis en retard, je roule à 200. Eux ils me parlent dans mes songes. Moi je dis pareil dans mes sons. C'était écrit dans le grimoire. Au final il faut croire que j'y ai cru moi. Au final je suis rien d'autre que d'être moi. Je crois en Dieu, je suis qu'un putain d'être humain. J'ai ramé, je m'en rappelle. Ça fait long, faut qu'on s'appelle. T'es trop boulé sur le cabas. Il faut croire qu'on est capable. J'ai du mal à me lancer. Il faut mon flamme qui recèle. J'ai mon moteur.
En musique avec Théodore que se referme RFI Matin. Merci à Jean-Pierre Pellan qui était à la réalisation. Je vous laisse en bonne compagnie avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Dans une dizaine de minutes, appel sur l'actualité. Quel est le programme ?
Eh bien, on va commencer comme tous les matins avec les questions sur l'actualité et les réponses évidemment de la rédaction de RFI. Ce matin, on nous interpelle par exemple sur l'expulsion vers Bamako d'un Malien qui résidait en France depuis 20 ans. Des questions également sur l'équipe de France de football, incapable de marquer des buts dans le jeu. Voilà un aperçu de l'émission. Marion, bonne journée. Et dans 1 minute 30, le journal reste avec nous.
Priorité santé. Caroline Paré vous accueille tous les jours et reçoit des spécialistes à votre écoute. Aujourd'hui,
nous sommes toujours en Côte d'Ivoire et c'est à Abidjan que nous allons à la rencontre de garçons, de jeunes activistes impliqués dans la communauté. Ensemble, ils s'engagent, ils font bouger les choses pour la promotion de la santé et pour la défense des droits des femmes.
Priorité santé
avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI,
c'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
C'est le métal le plus populaire, mais produire une tonne d'acier émet 2 tonnes de CO2. Nous vous emmenons en Suède, au-delà du cercle polaire, où se dessine l'avenir avec la production de l'acier vert.
C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras.
Du mercredi au vendredi à partir de 14h10 TU sur RFI. Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
En pleine crise politique, nous allons cette fois parler des jours heureux qu'a connu la France ces 3 derniers siècles avec l'historien Jean Garrigue.
J'ai choisi d'aller plutôt du côté lumineux de notre histoire et montrer à quel point à certains moments nous avons su rêver ensemble et donc célébrer ensemble ce rêve d'avenir.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.